Deuxième spectacle, Vincent. Le fou et sa femme ce soir dans Pan Comédia ou Pan Comédia. Vous allez me corriger tout de suite, Jean-Pierre Vincent. On dit Pan Comédia ou Pan Comédia?
Pan.
Pan.
Pan. Pan.
Donc Jean-Pierre Vincent qui est un habitué d'Avignon et qui depuis son départ du théâtre de Nanterre a créé sa propre compagnie Studio Libre avec Bernard Chartreux. Vous venez cette année en Avignon avec un spectacle un petit peu particulier avec des très jeunes comédiens. Alors ce n'est pas la première fois pour vous, mais c'est la première fois en tout cas avec cette école l'ERAC, l'école régionale des acteurs de Cannes. Vous êtes d'ailleurs avec Didier Abadi qui est le directeur de cette école. Pourquoi ce choix, Jean-Pierre Vincent, de venir avec des jeunes comédiens? Est-ce que c'est l'idée de la transmission comme ça, un petit côté professoral qui vous anime alors que vous êtes revenu à l'indépendance avec votre compagnie?
Je suis pas très professoral. En fait, à chaque fois que j'ai travaillé dans une école, que ce soit l'école du TNS, le conservatoire ou maintenant l'ERAC, j'ai toujours eu et à cœur et comme mission de terminer le travail, disons. J'ai bien aimé à chaque fois faire la sortie, faire le bilan, le cumul de tout ce qui vous avait pu traverser, de les rencontrer longuement. Et le premier jour du premier festival de la première direction de Bernard Fèvre-Darcier, ça a été Peine d'amour perdu, avec l'école du TNS en 80. C'était la première fois qu'une école venait à Avignon. Depuis, ça a été presque un rite, en tout cas un endroit de passage agréable et fructueux pour toutes les écoles qui sont venues. Donc, comme on a commencé un travail en commun avec Didier Abadi et l'ensemble des gens de l'ERAC, ça m'a semblé naturel de le proposer de venir ici.
Est-ce que vous avez un plaisir particulier à travailler avec des très jeunes comédiens comme ça, à peine, pas à peine formés,
ouais,
mais enfin, comme ouais, ça, un peu malléable, j'imagine.
Ouais, ouais. Oui, parce que il y a tout un... Enfin, j'aime bien travailler aussi avec des comédiens de tous âges, mais il y a... dans la concentration du lieu de l'école, quelque chose du rapport à l'œuvre qui est encore plus pur. C'est-à-dire que, évidemment, même dans une école, chacun a son ego. Mais les égos, après 10 ans de métier, 15 ans de métier, sont un peu plus compliqués. C'est pas simple non plus, les élèves de l'école. Mais étant donné le mode de rassemblement qu'on a entre eux, c'est-à-dire toute mon équipe artistique, toute mon équipe artistique et eux, on est extrêmement concentré sur l'objet qu'on a choisi, qui a des lois particulières, un style particulier, une façon de découper le monde particulière, et on est là autour de ce truc et on serre les boulons avec à la fois beaucoup de rigueur et beaucoup de liberté.
Donc en l'occurrence là, le texte de Boto Strauss. Alors on va en parler, mais Didier Abadi, on va peut-être présenter en quelques mots comme ça l'ERAC qui vient pour la première fois en Avignon. J'imagine que c'est un moment important dans l'histoire de l'école, après tout.
C'est la deuxième fois.
Attendez, il faut que vous parliez.
On était venu il y a, je sais pas, 8 ans à peu près avec un spectacle qu'avait monté Robert Cantarella qui s'appelait Murder. C'était une écriture de Mignana et on avait joué ça à la Chartreuse, enfin dans le lieu de la Chartreuse, avec d'autres écoles. D'ailleurs, il y avait le TNS, il y avait le conservatoire, et il me semble qu'il y avait aussi l'école de la rue Blanche. Enfin, elle n'était pas encore à Lyon à l'époque. Donc c'est vrai que c'est des moments qui sont intéressants. Je crois, enfin, l'école, c'est une structure qui est née il y a maintenant 12 ans, donc dans les années 90. Très vite... l'école a mis en place c'était un cursus de 2 années, est devenu une école à un cursus de 3 années, comme toutes les autres écoles en France. Et puis la troisième année, c'est décentralisé de Cannes à Marseille. Ce qui fait que l'ERAC, École Régionale d'Acteurs de Cannes, a 2 années à Cannes et 1 année à Marseille. Et c'est à Marseille que se préparent tous les spectacles de troisième année. si on peut parler de spectacle, parce que ce sont quand même des moments très, très particuliers, puisqu'ils regroupent à la fois une phase de formation, puisque ce sont des élèves comédiens qui sont confrontés à un texte dans sa totalité. C'est une promotion entière, donc c'est un exercice collectif avec 16 élèves. Et puis c'est aussi un moment de confrontation à l'univers du metteur en scène, qui a son propre univers artistique. Donc comment travailler avec un metteur en scène, la place du metteur en scène, la place de l'acteur. Donc c'est des moments extrêmement forts. Et puis ça regroupe chez nous aussi un moment qui est celui de l'insertion professionnelle. Puisque vous devez savoir que le Jeune Théâtre National, la procédure JTN, est réservée uniquement aux deux écoles qui sont sous tutelle exclusive du ministère de la Culture, c'est-à-dire l'école du TNS et le conservatoire, et que l'ensemble des autres écoles, qui se sont toutes mises en réseau, ne bénéficient pas de telles structures. Donc l'idée, c'était effectivement de montrer des élèves, au mieux de leur forme, je dirais, à un maximum de professionnels, tout en limitant le nombre de représentations et les tournées éventuelles sur ces spectacles-là. Avignon, c'est un endroit pour nous où il y a effectivement beaucoup de professionnels, donc c'est quelque chose qui est intéressant. L'idée étant aussi de reprendre ce spectacle, puisque c'est un texte important, puisque ça n'a jamais été fait, jamais été monté encore en France, de le reprendre aussi sur Paris, ce qu'on a fait donc à Bobigny. Voilà.
Donc à l'automne.
Ouais.
Didier Abadi disait que le texte n'avait jamais été présenté en France. En effet, c'est une création française. En revanche, il a été monté par Peter Stein à Berlin l'an dernier.
Il a déjà été monté 5 fois en Allemagne.
5 fois en Allemagne.
Ils ont de la veine, les auteurs allemands.
Pourquoi avoir choisi ce texte de Botho Strauss, qui est un texte relativement touffu, relativement dense? Il y a 80 rôles, je crois, une vingtaine.
98, enfin, je n'ai pas compté.
Donc une folie. Je crois que vous avez réduit le spectacle à 3h40 et non plus à sa version de 4h. Mais en même temps, ça reste...
Non, c'est 5h30, Peter Stein.
5h30, donc on est passé à 4h initialement et on est aujourd'hui à 3h40.
Voilà.
C'est bien.
Au plus 3h40, Inch'Allah.
Bon. Comment, donc on peut, comme c'est à 18h, on peut ensuite aller...
Oui, on peut aller en enfourner un autre, moins long. C'est un conseil.
N'allez
pas voir un spectacle de 4h derrière, quand même.
Il m'avait prévenu de dire ça, donc on se fait un petit échange.
Non,
bien préciser
que c'est-à-dire
que
le spectacle est annoncé 4h. Disons, je pense que ce sera entre 3h30 et 3h40.
Quoi. Bon. Alors pourquoi, quand même, malgré tout, 3h40, un spectacle aussi titanesque? Un texte aussi dense?
Non, c'est vrai que c'est titanesque. C'est une folie totale dans laquelle on s'est engagé, parce que aucun théâtre en France n'a les moyens de monter cette pièce. La Comédie Française, peut-être. Ça permettrait pour une fois de faire jouer tout le monde. Même il y en aurait qui devraient doubler.
Ça doit pas être possible.
Si, c'est possible, c'est double feu. non, on a mis très très longtemps à choisir l'œuvre. On s'est vu avec le groupe d'élèves il y a, je sais pas, un an et demi quasiment, une fois. On a passé une journée ensemble, chacun a dit vers quoi il aurait envie plutôt d'aller, et on avait évidemment à côté des désirs parfois divergents d'ailleurs de chacun, on avait un problème de nourriture pour un groupe de 16 acteurs, 9 garçons, 7 filles.
Plus 3.
Alors, 3 attendez, ça confirmés. C'est venu à cause D'accord. de Pancomédia. On a exploré des pistes très différentes, soit du côté de Heiner Müller, du côté de Shakespeare et de la tragédie grecque, du côté. Enfin, on a lu plein de choses. Et il y avait toujours, comme ça arrive évidemment dans le répertoire traditionnel, jamais assez drôle pour les filles. Ou alors on montait les Troyennes et les Bacchantes et il n'y avait pas assez drôle pour les mecs. Bon. Donc on s'est acheminé par des foules de lectures avec Chartreux, mais c'était déjà, quand on a fait les pièces de guerre avec un groupe précédent, on avait aussi travaillé pendant un an sur le choix de la pièce, pour être aussi proche que possible de l'énergie spécifique qu'on pouvait déceler de ce groupe. Parce que chaque groupe d'école, année après année, a une énergie spécifique. Il a vécu... Bon, c'est des personnalités qui ont été assemblées à la fois par le plus de rigueur possible au moment du concours d'entrée, mais aussi par les hasards de la vie et de choses qu'on ne peut pas décider au concours d'entrée. Et puis il a vécu comme ci, il a vécu comme ça. Il y a des groupes qui vivent bien, des groupes qui vivent mal. Il y a des groupes joyeux, il y a des groupes pas joyeux, etc. Bon, on avait senti un certain nombre de choses et au bout d'un moment, ça s'est dirigé vers Botho Strauss, pas tout de suite sur cette pièce. On aurait pu faire, par exemple, Chœur final et des morceaux d'une autre pièce de Botho Strauss récente qui s'appelle Les Sept Portes. Mais Chœur final avait été fait ici au festival par l'école du TNS avec Joël Joanneau. Donc, c'était un chemin déjà utilisé. Et un jour, dans Le Monde, il y a 2 ans, l'été, je lis une critique, Biennale de Venise, Peter Stein amène une pièce de Botho Strauss, qui est un festival pour jeunes acteurs, c'était marqué. Alors j'ai appelé tout de suite l'Arche pour avoir le texte.
Oui, parce que c'est une pièce qui a été écrite justement par Botho Strauss des jeunes comédiens.
Pour des jeunes comédiens, pour un mélange de comédiens dont beaucoup étaient jeunes. En fait, c'était écrit pour la troupe qui a répété pendant 1 an et demi l'intégrale du Faust de Goethe avec Peter Stein, et qui, dans le même temps, ont monté cette commande que Stein avait fait à Strauss. Et comme il y avait 45 acteurs, vous savez, dans le grand Faust, il y a 3 rôles, et puis le reste, c'est des personnages épisodiques. Et en fait, il a calqué sa nouvelle pièce sur quelque chose comme ça, et il savait qu'il avait 40 acteurs à sa disposition. Donc, il n'a pas limité cette sorte de narration du monde contemporain qui se passe dans un hôtel. Cet hôtel n'est pas vraiment un hôtel, mais un hôtel, ça permet des rencontres, du mystère, une vision du monde d'aujourd'hui. C'est un endroit à la fois ouvert et névrotique. Et il s'en est donné à cœur joie pour poursuivre sa recherche d'écriture, celle qu'il mène, disons, depuis 10 ans. C'est-à-dire comment remplacer la fable traditionnelle au théâtre, la marquise sortie à 5 heures, etc., etc. Comment remplacer la story, le scénario, par quelque chose d'autre pour faire le mouvement. Dans un premier temps, dans les années 90, il a écrit des pièces complètement décousues, comme des pièces à sketch, où il n'y avait pratiquement aucune liaison d'une histoire à l'autre. C'était des histoires qui succédaient. Il y avait des liaisons mystérieuses, mais en fait, c'était comme faisaient les cinéastes italiens dans les années 60, des pièces à sketch. Et là, il a réussi à réintégrer une histoire, une vague histoire centrale entre 2 personnages.
Un éditeur et
un jeune éditeur fauché, bataillant contre les grands consortiums, etc. Et une fille qui est réparatrice de vélo et qui veut devenir romancière, qui est plutôt allemande de l'Est alors que lui est plutôt allemand de l'Ouest. Il représente aussi une certaine forme d'Allemagne dans le Berlin d'aujourd'hui. Super branché, super à la mode, névrosé, etc. Avec une névrose très particulière, qui n'est pas celle de Firmini, enfin, bon. C'est une analyse du monde tel qu'il est aujourd'hui et tel que Botho Strauss se permet de l'envisager pour Mercredi en 8. C'est-à-dire, où vont nos névroses? Où vont nos désaccords? Où vont notre impossibilité de vivre et notre impossibilité de dialoguer?
Parallèlement, vous sortez, je crois, au Solitaire intempestif, un livre d'entretien qui s'appelle « Le désordre des vivants ». Et pour avoir parcouru un peu le Botho Strauss, je me suis dit que ça faisait écho. Alors, je ne sais pas si c'est cet entretien que vous avez donné au moment où vous prépariez Botho Strauss, mais je me suis dit « Botho Strauss, ça pourrait sous-titrer « Le désordre des vivants ».
Oui, mais notre vision du monde a une certaine cohérence. Non, mais moi, je patauge dans la merde des vivants depuis 30 ans. Je dirige des boîtes, j'ai attiré des gens, à me faire tirer par des gens aussi. C'est beau la vie, quoi, parce que c'est un putain de bordel.
Alors, vous dites de ce spectacle, de cette pièce, qu'elle est drôle et névrosée, ou plutôt névrosée et drôle. Est-ce que c'est compatible?
Ah, oui, absolument. Woody Allen, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est un truc. On a parlé. Forcément, il y a des. Vous savez, c'est un auteur extrêmement raffiné. C'est le mec le plus intelligent que vous puissiez rencontrer, le plus cultivé. Il a tout lu. Il a été un très grand dramaturge au sens du compagnon du metteur en scène avec Peter Stein. Il connaît Tchekhov à fond. Il connaît Shakespeare à fond. Il connaît la Divine Comédie à fond, etc. Puis alors, il laisse des petits cailloux pour ceux qui vont travailler la pièce. Dans une scène, il y a une petite allusion à la Divine Comédie. Prenez ça dans votre sac, pensez-y. Il y a une allusion à Aristophane. Prenez ça dans votre sac, pensez-y. Et puis, il y a cette histoire qui a un centre et qui n'en a pas, comme les films de Fellini, comme La Naveva, vous avez un milieu, là c'est un bateau chez Fellini, ici c'est un hôtel, mais les films de Fellini ont à la fois une sorte de personnage central, qui est souvent Mastroianni, et un pas de centre du tout. Les films d'Atman, bon, qu'est-ce qu'il connaît le cinéma aussi ? C'est parti, je crois, toute cette histoire de Grand Hôtel, le film avec Marlène Greta Garbo et John Crawford, qui multiplie des personnages dans un hôtel aussi.
Et ses références.
Et tout ça, il a ça dans sa besace.
Et ses références au cinéma ou aux grands textes, Dante, Aristophane, etc., on les retrouve dans la scénographie, dans votre mise en scène, ou c'est juste comme ça,
un petit peu. Bon, la scénographie, elle est la plus lumineuse, la plus simple possible. Bon, ce qui a été intéressant aussi, c'était de confronter cette bande d'acteurs à une œuvre. On aurait très bien pu, pour résoudre nos problèmes de distribution avec les filles, les mecs et tout ça, faire un montage, comme avait fait par exemple Georges Lavaudant avec la promotion précédente de l'Irak, un montage de textes divers, fait sur mesure. Bon. Moi, je voulais absolument confronter ce groupe avec une œuvre, avec ses lois, avec la rigueur qu'il faut pour être libre à la fin. Étudier une œuvre, et en tirer vraiment toutes les forces imaginatives possibles. Bon. Mais je voulais aussi confronter le groupe avec mon équipe, extrêmement expérimentée, par ailleurs ne sachant rien à chaque nouvelle œuvre, à chaque nouveau travail, on est dans la mer de noir, parce qu'on ne sait pas quoi faire, parce qu'on a justement choisi cette œuvre, parce qu'on ne savait pas comment le faire. Et la bande Chartreux, Chambasse, Poisson, qui sont des cadors du métier, vraiment les meilleurs, les confronter avec aussi, ça va laisser des traces aussi dans l'avenir. C'est d'avoir rencontré un sens de la perfection du travail comme ça, je crois que c'est très important pour ceux qui l'ont fait. Hein. Et donc, c'est un décor de Chambasse, il est magnifique, c'est des éclairages de poisson, ils vont être magnifiques. Il y a une nouvelle avec nous qui est Fabrice Caramelli, une jeune costumière marseillaise. Quand vous allez voir le spectacle, vous allez vous dire, ils ont du fric à l'école de Cannes et Studio Libre, parce que ça fait friquer.
Mais oui, c'est connu. Ouais.
Ça fait friquer. Et Fabrice Caramelli a fait 80 costumes pour 10 000 euros. C'est beaucoup du tombé du camion. Ça, c'est sûr que c'est bien de chercher des costumes pas chers à Marseille. Ils sont moins chers qu'ailleurs, parce qu'il y a plus de camions qui passent en ouvrant les trucs. Bon. Et elle est très débrouillarde. Elle a fait un travail magnifique pour les moyens qu'on avait. Et c'est vrai que beaucoup de théâtres nous ont aidés aussi dans le matériel électrique et des choses comme ça. Donc ça va faire... Si vous voulez, si je vous dis, mais non, c'est un atelier d'école, c'est tout ça, vous allez dire, à mon œil, c'est un spectacle absolument fini. Ce qui s'est passé, c'est que on a travaillé très longtemps par rapport aux normes professionnelles habituelles. On a travaillé 4 mois et 3 semaines, après s'être rencontrés 1 an et demi avant. Mais pendant 2 mois, 2 mois et demi, on a fait la rencontre avec Boto Strauss, sous forme de lecture, improvisation, etc. On a fait beaucoup de travail à la table pour comprendre cette pièce qui, vraiment, y compris pour moi, dans les premières lectures, il y avait des scènes où je disais, mais ne comprends rien. Parce que tout est codé, tout est... Alors, pour le spectateur, il n'en a rien à foutre que ce soit codé. Le spectateur, il faut qu'il jubile. Et c'est une pièce jubilatoire. C'est d'un humour unique. Si vous voulez, il prend la critique du monde d'aujourd'hui sur le mode de la comédie, ce qui devient rare. Une comédie extrêmement raffinée. Bernard Chartreux disait dans Le Travail que des gens comme Heiner Müller ou Sarah Kane racontent frontalement le cancer du monde. Et que lui raconte les toutes petites métastases qui sont pas encore visibles même à l'IRM. Il va dénicher les métastases, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en train de se développer qui va faire mal. Mais au moment où on peut encore en sourire de façon venimeuse.
Merci Jean-Pierre Vincent. Il y a plein de questions, j'imagine, de la salle, parce qu'on n'a pas parlé de votre nécessité ou de votre choix de comédien professionnel à côté des élèves, etc. Mais c'est nos camarades qui vont certainement vous interroger? Non, si.
Non, mais c'est très simple, hein, cette question. C'est d'une part que, bon, ils sont 16, et il y a à peu près 80 personnages, donc ils tournent, et y compris, ils tournent aussi dans les deux personnages principaux, où on s'arrange pour indiquer aux spectateurs qu'on change d'acteur, non? Pour une juste répartition de l'effort artistique. Mais, et en termes de nombre, et en termes de spécificité de personnages, il y avait deux rôles qui rentraient pas. C'est-à-dire qu'on aurait pu aussi les faire jouer par des jeunes acteurs, mais à ce moment-là, la folie des changements de costume serait devenue si absurde que les spectateurs n'auraient plus rien compris. Et il y a deux personnages de vieux clowns qui se présentent comme étant des as de la vieille variété, qu'on a choisi de faire revenir à l'école deux acteurs qui ont travaillé avec moi sur Lorenzaccio, un acteur rennais, Pierre Gondard, et un acteur méditerranéo-parisien qui est Philippe Crubesi, qui est aussi auteur dramatique lui, qui viennent faire la vieille variété alors que les autres font la nouvelle variété. Voilà. Et puis il y a Alexandra Tobelheim, qui est mon assistante et qui a pris sa part aussi d'un personnage qui est assez important, même s'il n'a pas beaucoup de texte, très important pour l'équilibre de la pièce et qu'on ne pouvait pas couper et qu'on ne pouvait pas non plus confier à une autre parce que sans ça, la tourne serait devenue si vertigineuse que on ne s'en sortait plus, quoi.
Bon, donc une comédie sur les métastases du monde. Merci Jean-Pierre Vincent, merci Didier Abadi. Donc... Le fou et sa femme ce soir dans Pan Comédia, c'est au gymnase Aubanel jusqu'au 13 juillet.
En 3h30, 3h40.
En 3h30, 3h40. Le texte est publié à l'Arche et le spectacle a repris cet automne à la MC 93 de Bobigny.
C'est une admirable traduction.
En novembre. De Jean-Pierre Vincent, Bernard Chartreux.
Et Bernard Spring.
Merci.
18h.
Merci beaucoup.